7h, 9h, la matinale de Nova. Avec Marie Bonisso et Queenie Tassel pour que tu rêves encore, 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 encore. Nova.
Cette nuit, j'ai fait plein de rêves différents et moi, j'étais tout le temps en train de me cacher, de fuir quelqu'un en fait, ou quelque chose qui me courait après. Et à un moment donné, je me suis retrouvée dans une chambre avec un de mes camarades de promo qui s'appelle Marc. Et en fait, c'était Hulk. Alors, il n'était pas vert, mais bon, c'était Hulk. On avait trouvé une solution pour qu'il arrête de devenir Hulk. C'était qu'il fallait lui gratter derrière la tête.
Nova ?
Je suis pas quelqu'un de très tactile. En plus, c'était Hulk, alors je me suis demandé, mais pourquoi Marc ?
Nova ? Pour que tu rêves encore.
On vous avait promis un morceau choisi par Queenie, c'est sa sélecta du jeudi.
Et, oui.
Et donc là, l'actu pour votre disque, Queenie, c'est une actu culture. Le Louvre lance sa 10e édition de sa campagne de mécénat qui s'appelle Tous Mécènes. Mm-hmm. Et le principe, c'est que tout le monde peut aider le Louvre à acheter un buste en bronze qui s'appelle, attention, Apollon Citarède. Il a été découvert à Pompéi. Il vaut la modique somme de 800 000 euros. Tous Mécènes, c'est vraiment une cagnotte sur Internet. Donc il vous reste 22 jours si vous voulez participer, même à hauteur de 5 balles, hein, vous pouvez donner. Et cette année, donc, ce qui nous intéresse, c'est que l'ambassadeur de cette campagne du Louvre, c'est Nikos Aliagas, présentateur télé. Queenie, vous avez donc profité de cette actu pour tirer le fil et rendre hommage à la Starac.
À la Starac et surtout à Nikos Aliagas, que j'adore. Non, j'ai... Nikos, il a présenté la Starac sur TF1 pendant 8 saisons à partir de 2001.
Très bien.
Faut savoir qu'à l'époque, Nikos, il n'était pas maxi connu, mais qu'il a quand même été casté pour présenter cette émission, il raconte.
Étienne Moujotte, qui a pris quand même un illustre inconnu, on m'avait vu un peu chez Christine. J'avais pas fait de prime de ma vie, un demi-prime enregistré avec Christine. Et j'étais dans son bureau. Et il me proposait aussi des magazines de news à l'époque, d'autres choses. Et apparemment, personne ne voulait faire la Starac.
Excusez-moi, c'est qui Christine ?
C'est Christine Bravo.
Ah d'accord, ok, très bien.
Aucun présentateur ne voulait se mouiller pour cette émission mi-télécrochet, mi-télé-réalité. Et pourtant, ça a été un énorme succès. Ça a révélé par exemple des Jennifer ou des Nolwenn Leroy.
Quoi?
C'est horrible, c'est horrible.
Vous
on est sur Nova, Marie.
Bah vous avez cherché, vous faites un 10 pour Nikos Aliagas.
C'est parce que les télécrochets, c'est important. Et, c'est ça, et c'est là où je veux en venir, c'est que dans les années 90, l'âge d'or, c'était l'âge d'or des télécrochets aux États-Unis et on y a vu éclore des Justin Timberlake, des Beyoncé ou encore une certaine Aaliyah à 10 ans à peine en 1989. Don't
En plus, ça reprend My Funny Valentine.
Exactement.
Bravo, petit enfant de 10 ans.
Alors, c'était une archive de l'émission qui s'appelle Star Search. Ça a propulsé sa carrière de jeune star, puisqu'un an après, donc là, elle avait 10 ans. Un an après, elle chante à Vegas plusieurs soirées en public avec Gladys Knight, qui est une énorme chanteuse soul américaine. Et elle a fait beaucoup d'autres choses hein, très jeune. À 15 ans, Aaliyah se marie avec R. Kelly, de 12 ans, son aîné. Un mariage qui a été annulé par ses parents, by the way. Puis, elle sort 3 albums avant ses 22 ans, quand elle disparaît dans un accident d'avion. Alors, on adore Aaliyah sur Nova, même si elle s'est brûlée les ailes un peu trop jeunes, et on dédicace sa carrière à Nikos Aliagas avec ce morceau génial, Are You That Somebody, d'Aliyah sur Nova.
On n'écoute pas Nolwenn Leroy ?
Non.
Sometimes I'm good, but now I'm not enough. Say yes, I say no. here with my tricks, my looks, my hat, just so I'm low key. If you tell the world,
you know that would be weak.
Oh boy, see I'm trusting you with my heart, my soul. I probably shouldn't let you go.
En concert samedi 15 février au théâtre du Rond-Point à Paris. On a deux places à vous offrir pour aller les voir ce matin. Et nos deux candidats à ces places de catastrophe, c'est Saïda et Flavien. Salut Saïda.
Salut.
Ça va?
Ça va bien et vous?
Vous adorez Catastrophe?
J'aime bien.
Ah, ça tombe super bien parce que c'est le concert. Flavien, vous êtes face à Saïda pour gagner ces places ce matin. Vous nous appelez d'où, Flavien?
Je suis sur la 6.
Sur la 6. Mais c'est pas précis ça. La 6, c'est 800 km de bonheur.
C'est exactement ça tous les matins. Que le plaisir et le sourire.
Mais alors, vous êtes arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est ça, Flavien?
Ah non, bah non, bien sûr que non.
Eh bah très bien. Bon bah bison futé, j'espère qu'il n'écoute pas Nova. Saïda, Flavien, ce matin vous allez vous affronter au jeu des commentaires. Alors bon, ça, c'est ceux qui achètent des trucs en ligne sur internet connaissent très bien ce jeu. Je sais pas si c'est votre cas.
Un petit peu.
Bon, moi j'ai trouvé 3 commentaires sous un produit. Ok. C'est ce produit que vous devez retrouver. Je vais vous lire les 3 commentaires. Le premier qui trouve de quoi ça parle remporte les 2 places pour aller voir Catastrophe. Saïda, c'est vous qui avez la main pour le premier commentaire parce que vous avez appelé là plus tôt. C'est parti. Je vous ai commandé la pose de ce produit au mois de mars dernier. CF, bon de commande 6 jours en format PDF. Depuis, plus rien. Ma maison est désormais terminée. Avez-vous mis la clé sous la porte? LOL.
Une commande de salle de bain.
Une salle de bain commandée sur internet, on vérifie.
Données non compatibles.
Du BA13.
Comment?
Du BA13, le placo qu'on plaque sur les murs.
Du BA13, j'adore. Ça part en technique, on vérifie.
Erreur système.
Oui, c'est ça, c'est la lumière. C'est pas grave. Flavien, vous avez la main pour le deuxième indice. Ma fille de 9 ans se l'est prise en pleine face. Avez-vous une assurance brisure? Bien à vous.
Alors, je dirais une porte.
Une porte, on vérifie.
Erreur système.
Non, c'est pas ça, Flavien. Saïda, okay, une autre proposition? On s'approche.
Une baie vitrée.
Une baie vitrée, on vérifie. On a un problème. Ah, si, c'est bon! C'était une baie vitrée, Saïda, commandée en ligne sur le site baievitrée.org. Félicitations, ça vous permet de remporter un cadeau qui n'a rien à voir. C'est 2 places pour aller voir Catastrophe au théâtre du Rond-Point. Oui, Flavien. Pourtant, vous aviez l'air fort en truc, Flavien. En truc.
Bah, j'ai hésité avec porte-fenêtre à la porte de place, de porte, j'ai pensé à porte-fenêtre.
Ouais,
voilà.
Ouais. Vous n'avez pas suivi votre instinct. Suivez vos rêves, Flavien. Alors. Bonne journée à tous les deux.
Ciao,
merci beaucoup.
Salut.
Bonne journée à l'équipe.
Nous sommes jeudi 6 février. Bonjour à toutes, à tous, à tous. Et un gros câlin particulier à tous les cow-boys, les soldats, les vikings, les gladiateurs qui nous écoutent en direct ce matin et qui ont perdu l'un des meilleurs cette nuit.
Starring Kirk Douglas as Spartacus, slave, gladiator, invincible fighter.
Kirk Douglas, le papa de Michael Douglas, est mort à 103 ans, on l'a appris hier soir. Il emporte avec lui tous ses rôles de fils de pute, la citation est de lui. Kirk Douglas, pour ceux qui n'ont jamais vu de film en noir et blanc, ou même en cassette VHS, c'est un acteur qui a été mutilé par Hollywood. Il a perdu un doigt chez Howard Hawks, une oreille chez Minelli, parce qu'il jouait Van Gogh, donc il a pu s'y attendre, un œil dans Les Vikings de Richard Fleischer. Après, il s'est fait crucifier dans son rôle le plus célèbre, Spartacus, de Stanley Kubrick, sorti en 1960. Et enfin, plus moderne, Kirk a aussi eu l'honneur d'être broyé par un camion à la demande d'Elia Kazan. Sans oublier sa maxi-fossette au menton. Ça, c'était pas du cinéma. Mais comment fais-tu pour raser ça ? Lui demandait Kim Novak dans Liaison secrète de Richard Quinn. J'ai donc zoomé sur les photos en noir et blanc de Kirk Douglas. Il y en a plein dans la presse ce matin. C'est vrai ? Il y a toujours un petit poil qui reste.
Qui reste. Bah ouais, c'est pas
propre. Et puis ce matin, je sais qu'il y en a qui nous écoutent dans leur lit, qui voient distinctement des cumulus devant leurs fenêtres, la pluie peut-être commencer à tomber sur la vitre, et qui se disent « bon, on va aller mater des cocotiers sur Instagram pour renier le vrai monde ». Alors, chers fuyards de la vraie vie, je vous déconseille fortement l'Instagram de l'Office du tourisme brésilien, qui poste, c'est vrai, plein de belles photos d'habitude, mais qui a un petit peu de mal avec les légendes de ces photos sur Instagram. Cette semaine, ils ont reposté une photo d'un touriste qui racontait son week-end à Rio. Alors, je vous lis la légende. « En 3 jours à Rio, je me suis fait dérober mes affaires et ma fille de 9 ans a été témoin d'un braquage. Conclusion, je ne recommande pas cette capitale où nous avons eu peur d'aller à l'extérieur de notre appartement. » Voilà, donc ça s'est retrouvé sur l'Instagram de l'Office du tourisme brésilien, à côté de soleil, caipirinha, carnaval, vol à main armée. Venez au Brésil.
C'est Brésil, ouais.
Avec vos enfants de 6 ans.
Ok.
C'est sympa.
Des sacs à main ou pas ? Tout va bien ?
Vous voulez pas qu'on fasse la pub un jour pour le Brésil ? Ce serait peut-être un peu plus
original.
Nova, pour que tu rêves encore.
Et notre invité ce matin en studio est parti à sa recherche et il enquête sur la morue. Frédéric Ferrer, bonjour.
Bonjour.
Vous présentez au Théâtre du Rond-Point le week-end prochain une conférence intitulée, je vais dire le titre exact parce que je l'adore, de la morue et des questions vraiment très intéressantes qu'elle pose pour la compréhension de tout un tas de choses du monde d'aujourd'hui.
Voilà.
J'ai bien dit, j'ai pas respiré. Non,
c'est magnifique, c'est très bien.
Pourquoi vous êtes allé chercher la morue, Frédéric Ferrer ?
Mais pourquoi pas ?
C'est vrai.
Non, l'idée c'était de bah, à un moment donné, j'ai vu qu'une morue avait disparu et c'est comment on fait pour faire revenir une morue qui a disparu ? Parce qu'en fait, c'est bien la question qui se pose. Hein. C'est-à-dire que c'était la morue de Terre-Neuve qui a complètement été exploitée pendant...
Alors, Terre-Neuve, où c'est, on le rappelle ?
Terre-Neuve,
au large du Canada.
Au large des côtes canadiennes, dans l'océan Atlantique. Et là, il y a un très grand stock, l'un des plus grands stocks de ressources halieutiques en termes de richesses de poissons qui sont présents ici. Et qui a été le grand endroit de la grande pêche du 16e, 17e, 18e, 19e siècle, 20e siècle, qui a alimenté toute l'Europe, tout l'Occident.
D'ailleurs, Terre-Neuve a commencé à être habitée parce qu'on y pêchait.
Il y avait déjà des habitants. Hein,
c'est mon côté néocolonial, désolé.
Il y avait déjà des habitants. Déjà, les Vikings étaient allés à Terre-Neuve.
Ok.
Les Vikings, on sont allés
on
en
leur
Amérique.
Rend hommage ce matin.
Voilà, 5 siècles avant Christophe Colomb, quand même. Donc, ils s'étaient déjà installés à Terre-Neuve. On ne sait pas trop s'ils avaient pêché des morues ou pas. Apparemment, ils n'aimaient pas les. Enfin, si, ça dépend.
Ils n'aimaient pas quoi ? Vous avez des dossiers sur les Vikings ?
Mais parce qu'il y a un archéologue qui dit qu'il mangeait pas de poisson.
Ah bon ?
Alors que c'est complètement stupide, c'est des pêcheurs.
Les Vikings étaient végétariens, une vraie news.
Non, ils n'étaient pas végétariens du tout, mais.
J'ai du lapin.
Tous les cas, ceux du Groenland, ils mangeaient pas de poisson.
Okay,
bon, enfin, bref, cette morue, elle a alimenté tout l'Occident chrétien pendant toute l'Europe. La morue, elle est liée au christianisme. Le développement du christianisme, ça a été le développement de l'alimentation de la morue, parce que tout simplement, pour pêcher, enfin, pour ne pas pêcher, il faut pêcher, justement.
Il y a un jeu de mots. Pêcheur, ok.
Et oui, parce que la morue est considérée comme... Parce qu'elle vient de l'océan, donc elle est considérée comme froide, parce que l'océan est considéré comme froid.
Ouais.
Et donc, on pouvait la manger les jours saints. Et comme au Moyen-Âge, dans le calendrier, il y avait la moitié des jours qui étaient saints.
Ouais, on mangeait toujours mal.
On mangeait, bah, il ne fallait pas manger de viande, de sang, tout ce qui avait un rapport.
Donc, focus morue.
Voilà.
D'accord.
Et donc, elle s'est retrouvée être l'aliment du vendredi, des jours saints, parce qu'elle venait d'un endroit, parce qu'elle ne dégageait pas de sang, parce qu'elle était considérée comme froide, parce qu'elle n'avait pas un rapport avec le sang, avec les règles, avec tout ça. Mmh. Et donc aussi l'aliment des jours d'abstinence.
D'accord.
C'est assez cocasse quand on voit.
voilà. Nova.
J'ai rêvé qu'il y avait la radio et que dans la radio, il y avait moi.
Pour que tu rêves encore.
C'était ouf.
C'est quand même une enquête, votre truc, parce que la morue, elle a disparu. Ça fait 25 ans qu'on n'en a plus.
Voilà, c'est ça. Elle a disparu. Le stock, il restait plus que 3% du stock quand les Canadiens ont décidé d'interdire la pêche à la morue dans tout cet endroit qui était l'endroit mythique, hein, mythique depuis 5 siècles, voilà, qui a alimenté toute l'Europe. Tous les pêcheurs du monde allaient là, quoi. C'était les Terre-Neuviens, ils partaient, etc. Bon, bref, ils interdisent la pêche à la morue.
Ça,
ils
c'est quand
C'était
quand,
en 92.
Ok.
Ils interdisent et. Et à partir de là, en espérant que le stock va se reconstituer, parce qu'il restait 3% du stock. Et le stock, donc ils s'attendaient à ce que le stock se reconstitue au bout de 5 ans, que les 3% commencent à faire des bébés morues, etc., etc., etc. Et puis, bah, 5 ans après, il ne s'est pas reconstitué. 10 ans après, il ne s'est pas reconstitué. Et puis là, on est près de 28 ans après maintenant, et il ne s'est toujours pas reconstitué. Et donc, la question qui se pose, c'est pourquoi la morue ne revient pas ?
Ah bah moi je vous la pose à vous la question, Frédéric.
Là il faut aller au rond-point samedi.
Ah non.
Bah oui, parce que c'est toute la conférence. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi elle ne revient pas? La question elle est pas tranchée, c'est-à-dire qu'il y a des hypothèses différentes. D'abord les scientifiques n'ont pas du tout les mêmes hypothèses que les pêcheurs.
Ouais. Et c'est quoi alors la team pêcheur, ils pensent quoi?
Ils pensent qu'elle ne peut pas revenir.
Ok. Ouais,
elle ne peut pas revenir parce qu'on l'empêche de revenir.
C'est-à-dire?
Bah, le grand argument des pêcheurs et des lobbies pêcheurs aussi au Canada, c'est de dire qu'elle ne peut pas revenir tout simplement parce que son prédateur, c'est-à-dire le phoque est ultra présent. Et pourquoi il est ultra présent? À cause de Brigitte Bardot.
Ah d'accord, donc en fait, non, mais un poisson protégé, les gens qui veulent retrouver ce poisson veulent qu'on arrête de protéger une autre espèce. Le phoque.
Bah, à partir du moment où vous protégez une espèce, à partir du moment où on entre dans un processus de protection d'une espèce, on protège par exemple les phoques, on crée un déséquilibre.
Mmh.
Or, le phoque est un super prédateur. Il mange énormément de poissons. On pense qu'un phoque à lui tout seul, il mange, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est, je crois, une tonne ou une tonne cinq par an.
Par an,
ah ouais, oui. De poissons, dont pas mal de morues.
Et le point de vue des scientifiques sur cette non-reproduction de la morue, c'est quoi ?
Il y a plein de raisons.
J'imagine qu'il y a des débats aussi.
Il y a plein de raisons. Mais en gros, quand une espèce est partie d'un territoire,
ouais.
Elle a été remplacée par une autre espèce. Et qui perd sa place ne la retrouve pas, en fait. C'est-à-dire, ça c'est une règle dans l'écologie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une pêche à un endroit, enfin vous avez une espèce qui est partie, l'autre a pris la place et celle qui est partie ne peut pas revenir. Ça c'est la première raison. Puis la deuxième raison, c'est que le peu de morue qu'il y a, les œufs qui sont pondus sont mangés par les autres poissons qui sont arrivés entre temps.
Vous êtes allé à Terre-Neuve, c'est comme ça que vous avez eu l'idée de vous intéresser à la morue
Oui, parce qu'au départ, je devais pas du tout m'intéresser à la morue, je m'intéressais aux frontières maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est au large de Terre-Neuve, parce qu'elles sont vraiment complètement absurdes.
Ubuesque.
Oui, ubuesque, oui. C'est un couloir.
Ils ont mis une règle dans la mer et puis ils ont...
Exactement, ouais. Exactement ça. C'est le résultat d'un très très mauvais compromis entre la France et le Canada, qui a attribué à la France un territoire marin que les Canadiens appellent la poêle à frire.
Pourquoi ?
Enfin, les Français de Saint-Pierre-et-Miquelon. Parce que ça ressemble à une poêle à frire, selon eux, avec le manche et le...
Bon, c'est
et
cool d'être géographe, on fait des petits dessins derrière, puis ça donne des frontières.
Et puis on se déplace surtout. Et puis bon, bref, en allant là-bas, enquêter sur ces frontières, j'ai rencontré... Bah, il fallait que j'aille en mer, donc j'ai rencontré un pêcheur qui était au chômage, qui pêchait plus de la morue. Et c'est là qu'il m'a dit, mais votre sujet, il est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la morue. Je dis, ah bon, et pourquoi? Bah, parce qu'il n'y en a plus. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est? Et voilà, puis après c'est le début d'une enquête, quoi.
Une enquête donc à écouter. Bon, vous n'avez pas la réponse à la fin de l'enquête, comme je peux dire ça. C'est des questions.
Ah non, mais j'apporte plein de réponses, plein de réponses qui sont des réponses ouvertes, quoi, parce que j'ai pas non plus. Mais j'essaye de discuter de la valeur des arguments de chacun, quoi. Donc on part dans des. En fait, c'est une conférence qui essaye aussi tout le temps de dériver, c'est-à-dire que je ne fais que ouvrir des parenthèses dans les parenthèses, dans les parenthèses, dans les parenthèses.
Sur un PowerPoint. Donc,
sur un
comme
PowerPoint.
Une vraie conférence.
Voilà. Okay. Et sans texte, parce que c'est que de l'oralité. Voilà.
Bah, merci de nous avoir donné un bout de cette oralité. C'était passionnant et ça donne vraiment envie d'aller donc le week-end prochain.
Oui.
C'est ça, hein, samedi 15.
Oui, c'est ça.
Vous vous tournez vers l'attaché de presse du Théâtre du Rond-Point qui valide. C'est donc dans le cadre de cet excellent festival Nos Disques Sont Rayés dont on parlait à l'instant avec Winnie parce qu'on a fait gagner des places ce matin. Allez voir d'ailleurs sur la page Facebook Nova M, il
oui.
y a des places à gagner. Et donc vous, Frédéric, c'est samedi 15 à 18h30. Oh que c'est précis.
Nova, pour que tu rêves encore.
Merci de vous réveiller avec nous en ce jeudi 6 février. On va immédiatement partir au boulot avec le Marie Transport qui est allé au travail de Bartabas, son invité cette semaine. Elle est à Fort d'Aubervilliers où Bartabas vit tranquillement sa meilleure vie avec ses chevaux. Et dans ce dernier épisode qu'on vous diffuse ce matin, on va comprendre comment Bartabas recueille des chevaux un petit peu malingres, un peu estropiés, des chevaux qu'on n'a pas envie de monter. Écoutez ce qu'il en fait.
Chiale. Vous allez où ?
Service d'accompagnement de personnalité au travail.
Je peux m'asseoir à côté de vous ?
Marie Transport, épisode 4.
Je reviens sur une question que j'ai posée au début. Vous m'avez dit, je ne vais pas vous expliquer de toute façon, mais vous parlez de s'exprimer artistiquement. C'est quand même vraiment ce que vous faites avec le théâtre équestre. Vous n'êtes pas éleveur de chevaux, vous n'êtes pas dresseur de chevaux.
Non, bien sûr. Bah, vous savez, moi, comme je l'ai souvent dit et redit mille fois, quoi, à Zingaro, on ne fait pas des spectacles pour montrer des chevaux. Si vous voulez voir des chevaux, effectivement, vous allez dans les élevages, vous allez même sur des champs de course, vous allez en voir plein et des beaucoup plus beaux, certainement, que ceux de Zingaro. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer la relation entre l'homme et l'animal. C'est-à-dire ce qu'on a été capable de construire ensemble, tous les deux. Mon dernier coup de foudre, c'est de Tsar. C'est un ami qui m'a appelé un jour, il m'a dit, il y a ce cheval immense, qui est une espèce de grande girafe déguingandée, qui fait 1m92 au garrot, qui est estropié, parce qu'il a reçu un coup de pied à l'épaule, mais il avait quelque chose, quoi. Voilà, il a exactement comme le charme. Vous pouvez avoir des gens avec un grand nez ou des grandes oreilles qui ont beaucoup de charme. Il n'y a pas de codification de l'esthétique. Que, voilà, il y a quelque chose qui se dégage, soit une énergie, soit un aspect, soit un regard, soit une douceur.
Vous croyez que je le gêne, là, misère, en marchant à côté de lui, comme ça ?
Votre avis ?
Non, ça a l'air d'aller.
Il va s'endormir, même.
En marchant, c'est possible.
Il écoute ce qu'on raconte et il s'est dit, encore Bartabas qui est parti dans son flot de paroles interminables. Je préfère quand il me parle avec ses fesses.
Et alors, misère, c'est quoi son histoire ?
Il est venu avec 3 autres chevaux du Portugal. Il devait être exporté à l'étranger et comme il était positif à la pyroplasmose, on les a récupérés.
Il y a quand même beaucoup d'histoires comme ça où vous récupérez des chevaux un peu malingres, un peu estropiés.
On n'a pas les moyens d'acheter des chevaux dans lesquels ils s'achètent dans la compétition ou autre. Donc c'est tout simple. Mais pourquoi pas ? J'en tire pas du tout une. Je pense qu'au contraire, c'est même un avantage, quoi.
Vous avez jamais
une philosophie de travail, une philosophie d'écoute qui pour moi est beaucoup plus intéressante. C'est même la seule qui est intéressante. C'est savoir accueillir l'autre. Et, mais vous savez, c'est la même chose chez les humains dans la compagnie. Hein. Les gens ne sont
beaucoup d'estropiés.
Un rôle. Non, mais les gens ne sont pas engagés pour remplir un rôle. Ils sont engagés parce qu'ils me plaisent, parce que voilà, pour des raisons très différentes. Et ensuite, voilà, année après année, il y a des gens qui sont là depuis plus de 20 ans à Zingaro aussi.
Vous parlez pas mal des gens qui travaillent avec vous aussi, là, avec moi. Il y a pas mal de moments dans le livre où vous expliquez que ça a été quand même presque un lien vers les humains, les chevaux.
Ah bah, je pense que ça, c'est quand même assez clair. Là, vous voyez, je fais que vous baratiner parce qu'on se. Je me protège avec les mots, mais bon, dans ma jeunesse, j'étais plutôt le genre un peu autiste. Quoi. Et c'est les chevaux qui m'ont appris à être un peu à l'aise. Là, vous voyez, je suis un peu décontracté, on rigole, parce que je viens de monter mes chevaux, donc j'ai... Voilà, pour moi, la journée est presque terminée, donc le reste... Non, mais voilà, c'est vrai que les chevaux m'ont permis de côtoyer les humains, puis m'ont permis surtout d'exister, même artistiquement, quoi. Hein. C'est-à-dire que si je suis Bartabas, c'est grâce aux chevaux, quoi. Oui, les chevaux m'ont permis d'exister, tout simplement.
Marie Transport, une série à retrouver en podcast sur nova.fr.
Nous aussi, on doit tout au poney. Hein. Moi, je vous avais rencontré à ce Poneyland d'Anthony en 2002. Sans les poneys, on n'aurait pas cette émission.
Je me souviens
que les gens le sachent.
Toi, tu rêves trop. Dors. Nova, pour que tu rêves encore.
Il est 8h39 sur Nova. Comme promis, voici des fringues.
La chronique textile.
Des fringues qu'on va essayer de rendre propres, puisque cette semaine, c'était la conférence Change Now à Paris, une sorte d'expo universelle de solutions pour la planète. Et il y a été question de textile, puisque parmi les participants, il y avait une start-up qui a inventé un filtre pour les machines à laver. Parce que faire des lessives, ça détruit aussi la planète, Yvan Jacob.
Eh bien oui, parce que je le sais, tous autant que vous êtes, vous achetez, vous portez et vous lavez des fringues en fibre synthétique. Bah oui. Et ce, alors que je vous ai déjà dit de ne pas le faire. Ah. Des vêtements en polyester, polyamide, en nylon ou en acrylique. Les fibres synthétiques, elles sont partout. Elles sont beaucoup utilisées par la fast fashion parce que c'est moins cher, évidemment.
Puis ça fait sentir des aisselles un
exactement.
Peu.
Exactement. Est-ce que polyester. Ça permet de reproduire des tas de matières, comme par exemple le cuir ou la fourrure, en faux, évidemment. Elles sont aussi très utilisées pour les vêtements de sport. Mais le résultat, c'est des millions et des millions de microparticules plastiques partout dans les océans. On en a trouvé jusqu'à 10 000 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes, avec des risques pour la santé, même s'il y a peu d'études encore à ce sujet, et des risques pour la vie aquatique, pour les animaux. Pire, Marie, dans l'Arctique, les microplastiques s'incrustent dans la glace et la font fondre encore plus rapidement.
Et donc le vêtement, c'est l'un des plus gros coupables de cette pollution aux microplastiques.
Ouais, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, 35% de la pollution pourrait venir des habits. Une seule lessive peut libérer jusqu'à 700 000 fibres plastiques. C'est des chercheurs de l'université de Plymouth qui l'ont montré. Alors c'est trop petit pour être totalement filtré par les stations d'épuration, surtout que les systèmes ne sont pas partout performants, notamment dans les pays en développement. Et puis, c'est bien le problème, c'est une pollution quasiment invisible. C'est moins choquant que des sacs plastiques dans le ventre d'un cachalot ou qu'une paille dans une narine de tortue, mais c'est tout aussi dangereux. Les microfibres servent aussi de nourriture aux plus petits organismes et tout ça se retrouve à la fin chez l'homme.
Et il n'y a pas de législation pour les marques de mode ?
Aucune obligation sur les étiquettes à propos des substances potentiellement dangereuses ou de la perte de microplastiques. Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique, elle a expliqué dans Elle cette semaine que son ministère était en train de travailler à un code couleur pour indiquer le degré de respect de l'environnement de chaque vêtement. Donc vous voilà, on est bientôt sauvés.
Ouais, bon, en attendant, il y a des solutions. Donc comme ce filtre dont on parlait au début, un filtre pour machine à laver.
Voilà, un filtre développé par Planet Care. C'est une start-up slovène qui vend son abonnement pour 10 euros par mois. Vous pouvez l'acheter. Il faut changer le filtre chaque mois. Donc un filon d'avenir puisque ça va aussi...
Chaque fois, à chaque lessive ?
Non,
ou chaque mois.
Ok,
d'accord.
Voilà, un filon, c'est pour ça, c'est un abonnement de 10 euros. Vous renvoyez les filtres, on vous en renvoie d'autres.
Ah, ok. Voilà,
c'est une box de filtres pour machine à laver et c'est un filon d'avenir puisque ça va aussi être imposé par la loi anti-gaspillage à partir du 1er janvier 2025. Vous serez obligé d'avoir des filtres
à machine à laver.
Autre solution, des petites balles duveteuses inspirées du corail qui emprisonnent les microparticules, vous les mettez directement dans votre machine, ou des sacs dans lesquels vous mettez vos vêtements avant de les mettre à la machine. Ça s'appelle Goopy Friends, c'est très technique, évidemment c'est allemand.
Quoi, évidemment c'est allemand, c'est technique. Et du coup, si on n'est pas encore équipé, on peut déjà limiter sa fuite de microfibres en changeant des petits trucs au quotidien.
Voilà, c'est ça, c'est les petites astuces de lessive. Vous pouvez laver seulement à 30 degrés au lieu de 40 degrés.
Ah bon ?
Ça abîme moins les vêtements, donc il y a moins de fibres qui s'en échappent.
Okay.
Même chose, vous pouvez utiliser de la lessive liquide plutôt que de la lessive en poudre, parce que la poudre, ça a un effet peeling, ça abîme les vêtements
okay.
Et ça laisse s'échapper plus de fibres. Évidemment, pas de sèche-linge, c'est très mauvais pour la planète, pour vos vêtements. Et puis, il faut moins laver vos vêtements. On a tendance à laver un vêtement au bout d'un seul jour. Réfléchissez, sentez-le le soir, voyez s'il sent vraiment mauvais. Vous ne serez pas le seul. Chip Berg, le président de Levi's, il a expliqué récemment qu'il ne lavait jamais son jean. Alors, si ça vous dégoûte, vous pouvez quand même l'aérer dehors ou le mettre au congélateur, ça tue les bactéries.
Ah, très bien, très bien. Et puis après, on le met au sèche-linge. Ouais, non, ça, du coup, ça annule. Et la meilleure solution dans tout ça, ça reste quand même de moins acheter de fringues.
Eh bah oui, parce que les études ont montré qu'en fait, les vêtements rejettent plus de microparticules lors des premiers lavages.
D'accord.
Si on les lave plusieurs fois, ça s'arrête progressivement. Une raison de plus pour préférer les vêtements déjà lavés, donc les vêtements de seconde main.
Merci beaucoup, Yvan, pour cette chronique qui donne raison à ma maman. Quand j'étais petite, elle me disait toujours « Mais ça ne se lave pas un jean !»
Bah non, ça ne se lave pas un jean.
Et j'ai dit au congèle.
Oui.
Alexandra, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Bien, vous.
Vous avez l'air réveillée depuis au moins 3 heures du matin, tellement vous êtes vive.
Eh ben c'est ça, je me suis levée à 6 heures en pleine forme.
Mais pourquoi vous faites ça, Alexandra ?
Parce que j'adore me lever, profiter de la vue du matin, les gens qui passent dans la rue, c'est merveilleux.
Wow. Vous devriez faire notre
Venez
émission.
Venez faire l'émission.
Mais oui.
Vous êtes pour que tu rêves encore, Alexandra. Alors vous avez vu quoi du coup dans la rue ce matin ?
Alors ce matin, j'ai vu un grand chien, un Irish Wolfhound, se promener. Enfin, c'est voilà, précis. Je pense qu'il promenait plus son maître.
Il était tout seul. Ah oui, d'accord, il promenait son maître. Très bien, bah, merci pour cette belle vision. On ouvrira plus grand les yeux dès 6h du matin. Et pour l'instant, bah, puisque vous êtes en pleine forme, je vous propose de tout niquer au quiz. Voilà, c'est la proposition ce matin pour essayer de gagner le matelas. Alors désolé, dans le matelas, il faudrait que vous dormiez un peu quand même.
Ouais. C'est vrai. Bon, je vais y songer.
Le record, il est à 9, Alexandra, pour l'instant, en ce mois de février. Et ce matin, tout commence par flo, comme flopé, florilège, ou floc, floc, font les bottes dans la flaque.
Qu'est-ce que c'est ça?
C'était Madame Jardin, m'avait appris ça en CP. Ça vous va ou pas?
Je l'ai.
C'est parti, 45 secondes.
Merci.
Alors, quand vous coulez pas, vous quoi?
Quand je, pardon?
Quand vous ne coulez pas, vous quoi?
Je flop.
Oui, c'est le débit d'un rappeur.
Le flop.
Le quoi?
Le flot.
Ok, c'est tout petit et c'est de la neige.
Flocon.
C'est pas la faune.
Fort, flore.
C'est la flore, mais dans le bide.
Flore.
Flore quoi?
Intestinale.
Oui, c'est la flore dans le vagin.
Je passe.
Ok, c'est un bide.
Flop.
C'est savoir aimer, aimer sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à sourire. Vous avez le droit de me passer.
Florent, hein. Florent Pagny.
Oui, c'est le prénom de Philippot.
Philippe.
Non. Pardon, mais c'est... J'espère que tout le Front National nous écoute ce matin. C'est Florian Philippot qui était le grand ami de Marine Le Pen. Ensuite, ils se sont embrouillés.
Il n'y a pas de honte
mais,
à
mais
avoir.
Peut-être que Philippe Philippot existe. Fallait juste que ça commence par Flo. Sinon, vous l'aurez validé, ce point.
Et c'était vrai, avec le stress et puis vous avoir comme ça, bon, c'est
je comprends. Moi aussi, je suis stressée quand je m'entends. Mais c'était trop beau, Philippe Philippot. Il y a Christian Christine aussi, qu'on aime beaucoup et à qui on salue.
Alors, Alexandra, juste une petite précision sur la flore vaginale.
Oui, c'est l'instant gynéco.
C'est l'instant gynéco, donc c'est pareil que la flore intestinale, sauf que c'est dans le vagin. Vous ne l'aviez pas eu, et donc Florian Philippot, vous ne l'avez pas eu. Sinon, c'était presque un sans faute, vous avez fait 7 points.
7 points, bravo Alexandra.
Bon, merci.
Vous dédiquez, vous dédiquez c'est ça à qui?
Je dédicace ça à ma petite Nina Rose.
Nina Rose, c'est un prénom composé?
Qu'est-ce que c'est?
Oui. C'est ma fille.
C'est un enfant, oui, c'est ça, on est en présence d'un enfant.
Qu'est-ce que c'est,
Nina Rose?
Bon, bah, bonjour à Nina Rose et merci de nous avoir appelé avec un aussi grand sourire, Alexandra.
Merci à vous et vous faites le bonheur de millions de gens, donc c'est super.
De milliards.
Soyons modestes.
Des bisous, salut.
Nova, pour que tu rêves encore.